Alors, première question, évangile de la Transfiguration, pourquoi c'était Moïse et Élie? Alors, il y a deux réponses simples. La première, elle nous a été donnée dans la préface, en fait, c'est-à-dire, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce parce que tu es Dieu infiniment bon. Et c'était une préface particulière sur la Transfiguration. Et on parle de Moïse et d'Élie, ce qui permet à la loi et aux prophètes d'être comme représentés par ces deux témoins principaux. Donc Moïse est associé à la loi et Élie au prophète. C'est le grand prophète, celui qui doit revenir. Ça, c'est la première raison. Ouais, c'est comme Jésus qui, après sa résurrection, va expliquer qu'il devait mourir pour ressusciter en partant de la loi et des prophètes. C'est une manière aussi de dire tout, de convoquer toute la Bible, tous les témoins de l'Ancien Testament. Mais souvent, quand on en dit deux, c'est une manière de dire l'ensemble. Deuxième raison, c'est qu'il y a trois personnes qui jeûnent 40 jours dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui va jeûner 40 jours et 40 nuits quand il est sur la montagne du Sinaï. Et c'est là où il reçoit la loi. Et puis, il y a Élie qui va jeûner 40 jours et 40 nuits quand il traverse le désert, voilà, où il va recevoir sa mission de prophète. Et donc, le Seigneur, la semaine dernière, nous étions au désert. Comme Élie a été au désert, et là nous montons en haut de la montagne, comme Moïse est monté en haut de la montagne pour vivre cette transfiguration. Voilà, donc c'est lié à ces épisodes bibliques-là.
Alors il y a un troisième épisode qui est, ou enfin une troisième référence, c'est que en haut de la montagne de l'Horeb, la montagne du Sinaï, Moïse et Élie rencontrent Dieu. Moïse demande à Dieu de le voir et Dieu le cache au creux du rocher et il lui montre son dos et il passe. Et Élie a cette grande expérience en haut de la même haute montagne où il y a d'abord la tempête et puis ensuite il y a le tremblement de terre, puis ensuite il y a le feu et en fait Dieu se rend présent dans le fin silence. Et donc, il y a aussi quelque chose à travers Élie et Moïse. Enfin, ce sont deux grandes figures de la rencontre de Dieu en haut de la montagne. Et le mont Tabor, c'est une haute montagne. Enfin, la transfiguration, pardon, se passe sur une haute montagne. Et les disciples sont invités à faire une expérience que l'Écriture met en parallèle avec celle de Moïse et d'Élie en haut du Sinaï.
Un détail juste supplémentaire qui coïncide beaucoup avec le récit de la Transfiguration, c'est que Moïse, lorsqu'il monte sur la haute montagne du Sinaï, où il va rester pendant 40 jours justement en dialogue avec Dieu, il disparaît dans une nuée épaisse. Voilà. Et c'est en cela que ça rappelle, ou ça annonce plutôt, la Transfiguration. Il disparaît lui-même dans une nuée épaisse.
Voyez qu'à travers cette question et cette réponse, on voit l'importance de l'Ancien Testament. Si vous n'avez que le Nouveau Testament, en fait, eh bien, vous êtes déséquilibré dans votre foi parce qu'il manque la promesse. L'Ancien Testament vient accomplir, le Nouveau Testament vient accomplir la promesse qui est l'Ancien Testament, et donc les deux sont nécessaires. Voilà. Et donc là, oui, sinon, Jésus, ça vient comme un météorite qui vient de nulle part, alors que tout cet arrière-fond biblique nous permet de comprendre, en fait, la plupart des épisodes. Voilà. C'est clair que les Juifs, ça leur a parlé tout de suite. D'ailleurs, il y a la mention des tentes qui sont aussi une référence à l'Ancien Testament, mais comme ce n'était pas la question, on n'insiste pas.
Alors, petite transition bienvenue. Pouvez-vous parler de la nuée lumineuse, expression contradictoire de l'Évangile? Alors, ben, la nuée lumineuse, elle fait référence de fait à plusieurs passages de l'Ancien Testament, comme eh bien, en haut du Sinaï, mais elle est présente particulièrement tout au long de la vie du peuple au désert. C'est la nuée qui passe devant dans la traversée de la mer Rouge. C'est la nuée qui vient pour consacrer la tente de la rencontre, la tente de la présence où Dieu se rend présent. Cette nuée, elle va revenir au moment de la consécration du temple. et puis elle va partir au moment de l'exil. Enfin, elle manifeste la présence de Dieu de manière très significative dans l'Ancien Testament. Mais la question porte plutôt sur le fait que ce soit une nuée qui est lumineuse et qui en même temps porte son ombre. Et donc, est-ce qu'elle est lumineuse ou est-ce qu'elle est obscure? Alors en fait, on voit bien dans l'Exode que la nuit, elle est lumineuse pour éclairer la marche du peuple et le jour, elle est obscure pour les masquer à leurs ennemis. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Mais en tout cas, il y a de fait quelque chose dans la description de cette nuée qui est ambivalent ou qui est contradictoire. Ça va faire vraiment la grande joie de saint Jean de la Croix quand il va méditer quand il va mettre des mots sur son expérience mystique. C'est qu'en fait, plus on s'approche de Dieu, et plus on s'approche de la lumière de Dieu, et en fait, plus on rencontre l'obscurité. Il y a quelque chose dans le mystère. Plus on connaît Dieu, et plus Dieu, en fait, nous paraît grand, en fait. Vous voyez ? On pourrait se dire, plus on connaît Dieu, plus il nous paraît clair. Et en fait, l'expérience, celle que décrit au moins saint Jean de la Croix, qui est un des grands maîtres de la mystique ou un des grands chrétiens qui a pu décrire ce qu'est l'expérience mystique, c'est de manifester ça. En fait, plus on s'approche de Dieu et plus on se rend compte que Dieu nous est étranger, que Dieu est complètement différent de nous, que non seulement il est le tout autre, mais comme disait Nicolas de Cuse, je crois, il est le non-autre, celui qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie semblable à nous, en fait. Enfin, voilà ce que j'en dirais, mais mes frères vont compléter.
Pour en rester encore aux références bibliques, la nuée de la transfiguration qui descend sur Jésus et sur ses apôtres annonce déjà le fait que Jésus va lui-même disparaître dans une nuée aussi, le jour de l'ascension. La nuée est présente dans l'ascension, dans le récit de l'ascension des Actes des apôtres, au tout début, premier chapitre des Actes des apôtres. Et il viendra aussi sur les nuées du ciel. Voilà, il y a toute cette symbolique, mais qui part effectivement de la nuée, comme le dit le père Louis-Pierre, la nuée qui conduisait le peuple. Le grand théologien, saint Thomas d'Aquin, écrit ceci par rapport au symbolisme. Il dit, dans la transfiguration, toute la Trinité apparaît. Le Père dans la voix, le Fils dans l'homme et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. C'est pour ça que ce passage, si vous le permettez, c'est la parole que j'ai gardée quand on a fait cette sorte de lectio tout à l'heure. Quelle est la parole elle est très complète et je commence toujours par là. Et de la nuée lumineuse, une voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Et là, c'est une manifestation en fait trinitaire et les apôtres sont invités à entrer dans le mystère des trois personnes, dans leur union, en entrant dans la nuée.
Ce qui permet d'aborder la question, quelle est la différence entre Dieu et le Saint-Esprit? En fait, Dieu se révèle. Il y a l'homme qui va vers Dieu, notamment par le chemin de la création, le livre de la création qui parle de Dieu et nous pouvons remonter des créatures au créateur. Voilà, ça c'est le chemin que tout homme, même la personne qui n'a pas la foi, qui n'est pas dans l'alliance biblique, qui ne connaît pas la Bible, eh bien peut accéder à l'existence de Dieu. Mais il y a un moment où c'est Dieu qui vient, qui se révèle. Dans l'Ancien Testament, Dieu révèle qu'il est Père. Et il révèle qu'il est Père à un tel point que la filiation, le Fils, apparaît comme en transparence. Voilà, dans la figure de la sagesse, par exemple, dans le Messie qui doit venir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est comme annoncé. Dans le Nouveau Testament, la divinité de Dieu le Père, évidemment, est présente et la divinité du Fils est affirmée. « Mon Seigneur et mon Dieu », dit saint Thomas, devant Jésus ressuscité. Donc, et puis il y a la promesse de l'Esprit Saint qui est donnée et la divinité de l'Esprit Saint qui n'est pas affirmée explicitement mais qui est comme en transparence. Et c'est dans le temps de l'Église que l'Église scrutant les Écritures pour rendre compte de l'ensemble de la cohérence de la foi, eh bien, va affirmer explicitement la divinité de l'Esprit Saint. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc les trois personnes du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Les musulmans pensent qu'on croit en trois dieux. Nous croyons bien en un Dieu unique, comme les musulmans et les juifs, et qui est communion d'amour entre le Père qui aime, le Fils qui est aimé et l'Esprit Saint qui les unit. Voilà, par exemple, moi j'aime maman, et donc il y a ma maman, il y a moi, il y a l'amour maternel, ça c'est l'amour de maman pour moi, et l'amour filial, ça c'est l'amour de moi pour maman. En Dieu, c'est le même amour entre le Père et le Fils, et le Fils et le Père. Et cet amour, il est tellement fort que c'est une personne. Mais c'est là où on dit puis on dit pas. C'est un peu comme la nuée. Vous voyez, plus on comprend et moins on comprend. Mais c'est ça qui est beau dans le mystère de la foi, c'est que il s'agit pas de comprendre, mais d'être saisi intérieurement. D'y entrer avec notre intelligence en acceptant que la foi la dépasse toujours.
Alors je prends une autre question. Dans l'Apocalypse, les ailes de l'aigle font-elles référence à Saint Jean, l'évangéliste, ou dans les ailes de l'aigle sont mentionnées dans le texte auquel a fait référence le père Guénaël, Apocalypse chapitre 12. La réponse est non. Cette référence des ailes de l'aigle, elle évoque un autre passage de l'Écriture où Dieu dit « Je vous ai porté comme par les ailes d'un aigle pendant toute votre traversée du désert, pendant les 40 ans ». Donc ça évoque la protection de Dieu, la manière dont Dieu a protégé, accompagné, porté son peuple pendant ces 40 ans et comment il continue évidemment à le faire et comment il le fait pour l'Église dans cette actualisation que propose l'Apocalypse. Si Jean a pour animal, ou si on associe Jean à l'aigle, au vivant qu'est l'aigle, parce que c'est déjà des figures qui sont présentes dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel par exemple, les quatre figures des quatre évangélistes sont déjà présentes. Mais si on associe Jean à l'aigle, c'est à cause de son regard pénétrant. Parce que Jean, de par son expérience, d'avoir reposé sur la poitrine de Jésus, d'avoir été témoin du cœur transpercé et d'avoir aussi été visité par l'Esprit Saint à ce moment-là pour saisir que ce moment était d'une importance capitale, eh bien, Jean va proposer un évangile sensiblement différent des trois autres. Les trois autres se ressemblent beaucoup. Celui de Jean est sensiblement différent parce qu'il a fait une expérience différente, on pourrait dire du cœur de Jésus, en tout cas ici on le dit vraiment parce que c'est vrai, disons, tout simplement. Enfin, en tout cas, disons qu'on peut l'étayer par des références nombreuses. Et donc Jean porte ce regard, un regard qui perce le mystère, et qui ressemble au regard de l'aigle. Voilà.
Une question qui nous met en appétit. Comment pouvez-vous décrire la disposition, entre parenthèses, plan de table, lorsque Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie et les apôtres ? Alors, comment pouvez-vous la décrire ? En fait, on ne peut pas la décrire, puisque notre seule source d'information, c'est l'Écriture sainte, qui nous dit ce que nous avons entendu, ni plus ni moins. Que nous puissions y entrer par l'imagination et disposer les éléments selon ce qui nous habite, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que c'était comme ça, puisque nous ne pouvons pas, puisque en fait on part de ce qui est contenu. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est pas trop de savoir qui était à gauche, à droite ou au centre. Mais l'essentiel, c'est ce que dit la voix du Père. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Oui. Et donc c'est en même temps important d'y entrer avec notre imagination parce que Dieu nous a donné cette faculté. Et puis en même temps, à un moment, eh bien, accepter que notre imagination ne soit pas captatrice. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous représenter, que nous ne pouvons pas nous imaginer. Et donc il doit y avoir une chasteté de l'imagination. Voilà. Parce que sinon, nous ne méditons plus, nous imaginons. Et donc ce n'est plus vers Dieu que nous sommes tournés, mais vers une représentation de Dieu. Et la représentation de Dieu, ce n'est pas Dieu. Celui que nous cherchons, c'est le Dieu vivant. Voilà.
Alors juste pour dire dans cet ordre de choses, petite anecdote, quand j'étais étudiant en théologie, pour me détendre, parfois je posais des questions vraiment bêtes et très terre à terre. Et par rapport à la transfiguration, j'ai posé la question, mais comment ça se fait que Pierre, il ne sait pas calculer ? Pourquoi trois tentes alors qu'ils sont six ? Il y a trois apôtres, il y a Jésus, il y a Élie et il y a Moïse. La réponse ne s'est pas fait attendre. Un des professeurs me dit c'était trois tentes à deux places.
Alors, je prends ces questions-là. Des conseils pour lire l'intégralité de la Bible en une année. C'est ambitieux. La première chose que je dirais, c'est que cela ne peut pas être un temps de prière. Vous voyez, lire la Bible en une année, ça veut dire qu'on y consacre une heure par jour, en gros, et qu'on la lit vraiment, quoi. On peut que la lire. On n'a pas le temps. On peut la lire avec tout son cœur, mais ça peut pas être une prière parce que il y a trop de matière. Alors je sais pas si mes frères ont une réponse à ça. Moi, je pense qu'il existe des sites internet qui sont bien faits, qui proposent. Mais de fait, la question est vraiment intelligente parce qu'on peut pas lire la Bible dans l'ordre qu'elle se présente. C'est pas une bonne idée en tout cas. C'est important de pouvoir faire. Enfin, on peut le faire si. On peut le faire. Il peut le faire. Oui. Mais pour durer. Eh bien, c'est prudent d'alterner, en effet, entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et puis aussi de prendre un ordre qui a été réfléchi. Je sais que, par exemple, en année de propédeutique, on propose à ceux qui donc se préparent, discernent pour entrer au séminaire, de lire la Bible dans l'année. Ils le font, et il y a un ordre précis qui nous est proposé, mais je l'ai pas comme ça dans l'esprit. Mais Étienne veut dire.
Et en fait, ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a des éditions de la Bible pour lire la Bible en un an. Donc vous pouvez l'acheter et puis c'est pas pour contredire Louis-Pierre parce que il est pas possible de lire en méditant comme on l'a fait par exemple, vous voyez bien que c'est autre chose. Il peut y avoir aussi une lecture continue qui soit une prière mais qui soit pas une méditation où on s'arrête mais vous voyez, où on lit et il y a quelque chose qui nous tourne intérieurement vers Dieu mais je pense que Louis-Pierre contredirait. Voilà, ça remplace pas la prière d'adoration ou la prière de méditation, mais il y a une lecture de la Bible qui est aussi priante et qui nous fait plonger dans le mystère de Dieu. Ouais, c'est aussi une belle expérience à vivre. Donc il y a des éditions de la Bible et puis avec les livres qui sont sectionnés par jour et avec différents livres dans un ordre qui a une certaine cohérence. Voilà. Pardon? Quelle Bible? Eh bien, il faut regarder, lire la Bible en un an. Vous allez sur Internet, par exemple, ou la librairie qui est ici, parce que eux, ils ont un Internet, ils pourront vous dire. Voilà. Mais j'ai pas la référence. Il y a la Bible en audio. Oui. Alors, par exemple, à Aix-en-Provence, on lisait quoi? Oui, c'est ça. À Aix-en-Provence, on lisait toute la Bible sur 3 jours, je crois. Jour et nuit. Ouais, c'était lecture permanente de la Bible. C'était à la cathédrale. Ils faisaient ça avec les protestants. Ça prend une semaine. Je me souviens plus. Ça prend une semaine. Et donc, c'était jour et nuit, mais permanence dans la basilique avec les protestants, catholiques et protestants. Voilà. Puis, ceux qui venaient dans l'église, alors quand on avait le Lévitique, c'était plus difficile que quand on avait les psaumes. Mais voilà. Bon. Les chroniques. Ouais, ça, après, on a une douleur chronique.
Je profite justement de cette question pour compléter juste un détail que j'ai oublié de dire dans mon enseignement sur l'adoration. Lorsqu'à un moment donné, je donnais parmi un des moyens possibles de lire un évangile de façon continue à très petite dose devant le Saint-Sacrement, donc vous vous souvenez de cet aspect-là, j'ai oublié de préciser que si vous ne l'avez jamais fait, l'idéal c'est de commencer avec l'évangile de Saint-Luc, parce que c'est le plus ample du point de vue de la trajectoire. Il commence dès avant la naissance de Jésus, même avant la naissance de Jean-Baptiste, et il va à l'autre extrémité, beaucoup plus loin que tous les autres, avec l'Ascension. Donc depuis avant la naissance de Jésus jusqu'à l'Ascension, l'évangile de Luc est celui qui nous aide le plus à entrer dans la totalité des mystères du Christ. Voilà.
Je lis un joli témoignage. Après la Lectio Homélie, il y avait une homélie. Pardon, je recommence. Après la Lectio Homélie, il y avait une famille derrière moi. J'ai demandé, après mon partage, la parole qu'ils retenaient. Ils ont hésité, puis l'enfant de 11 ans a dit « C'est pas tellement une parole, mais des images, car on était sur le mont Tabor le mois dernier, et en écoutant l'évangile, je m'y suis retrouvé. » C'est-à-dire qu'il y a aussi la Terre Sainte, là où ça a eu lieu, vous voyez, eh bien, la Terre parle. Et le Seigneur, il s'est fait homme, il s'est pas fait homme dans le Charolais, il s'est fait homme en Palestine. Voilà. Le mont Tabor, quand on est à Nazareth, il y a ce qu'on appelle le mont du précipice, et là, on voit toute la plaine jusqu'à Megiddo, et puis le mont Tabor. Et moi, en y allant, parce que j'ai passé 6 mois à Nazareth, en voyant le mont Tabor, j'ai compris j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris parce que j'y avais été et que d'y être et de voir où est le mont Tabor, puis derrière il y a Cana et puis encore derrière il y a le lac de Tibériade, d'y être, ça m'aide, et de monter au Tabor, voilà, avec les pieds, hein, de voir comme ça grimpe, eh bien en fait ça aide ensuite dans la contemplation. Voilà. La puissance de l'Esprit Saint fait aussi que on peut vivre l'Évangile même si on n'a pas l'occasion d'aller en Terre Sainte. Voilà.
Alors, je voudrais surtout pas entrer en discussion avec mon recteur, etc. Mais non, c'est simplement l'identification de la montagne de la Transfiguration avec le Tabor, c'est une pure tradition. Rien ne nous permet de le dire, l'Écriture ne nous permet absolument pas de le dire. D'abord, ce n'est quand même pas une très haute montagne. Et ensuite, alors je ne vais pas entrer dans toutes les exèges, mais si...
Non.
Oui, mais si l'épisode de la Transfiguration se situerait entre la confession à Césarée et le fait que Jésus monte finalement à une fête des tentes là où il ne voulait pas monter initialement, le mont Hermon semble, selon beaucoup, beaucoup plus plausible, d'abord parce que c'est une autre montagne, etc. Et un des arguments, c'est qu'alors c'est un de nos guides israéliens qui a dit ça, si ça avait été vraiment le Tabor, c'est une montagne d'une telle renommée à cause de tous les épisodes qu'il y a dans le livre des juges avec la prophète, avec Déborah, avec Gédéon, etc., qu'il l'aurait forcément identifié, que les évangélistes auraient parlé du Tabor. Là, c'est une montagne quand même très anonyme.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jean-Rodolphe. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur place et que donc vous écriviez massivement au recteur des sanctuaires pour qu'il organise... Non mais il faut c'est un pèlerinage en Terre Sainte et nous pourrons faire les rabbis là-bas qui discutent pendant des heures pour savoir si ce caillou était déjà là à l'époque de Jésus. Alors il y a une autre question qui est liée à celle de tout à l'heure sur la lecture de l'Écriture et qui demande si c'est possible de faire un digest, une sélection de passages de l'Ancien Testament qui permettent d'éviter tous les passages un peu plus pénibles. C'est vrai que la lecture du livre des Nombres, surtout la fin, de l'Exode aussi, enfin, le Lévitique, enfin, il y a pas mal de passages dans l'Écriture qui nous sont un peu étrangers, quoi. Alors, je ne connais pas de douce sélection qui permette d'éviter ça. Mais en fait, je crois que c'est important, en fait, de se confronter aussi à... pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me rends compte que c'est important que la Bible ne se laisse pas saisir. Je me rends compte que parfois, pour des liturgies, par exemple, pour les liturgies de funérailles, par exemple, c'est parfois, en effet, plus facile de prendre ce texte qui parle des pas, puis à un moment, il n'y a plus que... Vous voyez ce texte, on voit deux traces de pas, puis à un moment, on n'en voit plus qu'une, puis après, on en voit à nouveau deux, puis le gars dit, pourquoi, quand c'était difficile pour moi, il n'y a que moi qui marche. Puis Dieu lui dit, mais non, c'est moi qui te portais. Et on voit ce texte, il nous parle tout de suite, il est immédiat, il est comme du sucre qui vient tout de suite au cerveau, puis qui... Et en même temps, dans la Bible, c'est pas comme ça. Dans la Bible, il y a une complexité parce que ça parle. Dieu ne donne pas une définition de lui-même. La Bible raconte l'histoire d'un peuple qui marche avec Dieu. Et parfois, il obéit, et parfois, il désobéit, et parfois, il entend, puis parfois, il n'écoute pas, puis parfois. Et c'est bien qu'il y ait cette complexité. Et c'est bien que la Bible, elle échappe à une consommation immédiate, en fait. Parce que sinon, on pourrait croire qu'on peut aussi un peu consommer Dieu, quoi. Et donc, elle nous rappelle toujours que ce que Dieu nous propose, l'histoire de l'alliance, mais qu'il veut avec nous, qui est Dieu, le chemin par lequel on passe, tout ça, en fait, ne peut pas être saisi par notre intelligence, par notre imaginaire, même par notre volonté. Tout ça, c'est un chemin que Dieu conduit et qui nous dépasse. Et dans l'Écriture, c'est assez concret que ça nous dépasse.
Tout à fait. Je ne crois pas que l'objectif de Louis-Pierre était de remettre en question la beauté de ce texte, qui, moi, est un des premiers textes qui m'a touché dans mon cœur d'enfant. Et d'ailleurs, c'est un Brésilien qui l'a écrit, donc c'est une autre raison pour laquelle ça me touche. Mais c'est de montrer que même le texte le plus parlant ou le plus poétique ne vaut pas encore un texte biblique dans sa complexité parce que c'est plus exactement la même chose. Il y a quelque chose dans le texte biblique, il y a une inspiration de Dieu qui fait que ça nous parle à différents âges de la vie, à différentes époques aussi, et c'est une parole qu'on ne peut pas saisir, mais qu'on reçoit. Voilà. Comme prêtre, nous avons l'office des lectures, nous avons les lotes, c'est la prière qu'on a eue chez les sœurs, il y a les vêpres, que celles qui restent jusqu'à 17h30 pourront participer, et il y a aussi l'office des lectures, qui est un office composé de 3 psaumes, et puis après il y a une longue lecture biblique et une longue lecture des pères de l'Église. Alors, en fait, il est sur l'application, si vous avez l'application AELF, vous pourrez trouver, ça s'appelle la lecture. Et c'est l'office des lectures. Et en fait, dans tous les jours, les prêtres et aussi les laïcs qui le veulent, eh bien, nous avons une lecture biblique qui est assez longue et qui, de fait, est une sélection. Alors, il y a même une sélection sur 2 ans. Voilà, ce qui permet de varier encore davantage les textes. Et oui, ben, en ce moment, par exemple, on lit les textes de l'Exode. En fait, on lit pas tout l'Exode. On lit, je pense, une 25 ou 30 passages de l'Exode. Donc, c'est quand même une bonne part de l'Exode. Mais du coup, ça veut pas dire que ce soit que des textes faciles. Mais il y a déjà une sélection qui aide quand même à y entrer. Et puis après, il y a un commentaire des pères de l'Église, voilà, qui nous aide à voir comment aussi la tradition va lire ces textes. Pas nécessairement les pères de l'Église, parfois c'est le Concile Vatican II, vous voyez, mais c'est les textes, voilà. Et ça peut être aussi quelque chose qui nourrit votre lecture, pour ceux qui le veulent. C'est peut-être un petit peu plus avancé, mais puisque dans la question, c'était d'avoir un accès à une certaine sélection de textes bibliques, là, il y a quelque chose proposé par l'Église.
Alors, on posait la question tout à l'heure, quelle Bible ? C'est pas uniquement une question d'édition. C'est très personnel ce que je dis là, mais il me semble que pour lire et pour méditer, ça reste quand même la Bible de Jérusalem, dont la traduction est accessible, elle n'est pas trop emberlificotée dans des soucis d'exactitude absolue, etc. Et il y a, à partir d'une édition un peu plus grande, les notes de la Bible, les introductions aussi, avant chaque livre, qui sont très précieuses, et puis les renvois par des petites flèches comme ça qui permettent d'aller à d'autres passages de l'Écriture, essentiellement dans l'Ancien Testament. Sinon, du point de vue de l'exégèse ou de la recherche, de l'exploration, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, alors mais il lui faut acheter une édition plus grande, pas la toute petite, très grande, alors là c'est un modèle. C'est un modèle et pour les introductions, pour les notes de bas de page et pour les renvois. Et ça peut même aider c'est une sorte de lectio divina presque un peu plus poussée encore en prenant le temps. Voilà.
Alors il y a une question effectivement par rapport à ce qu'il dit hier. Pourquoi le fait d'être consacré à Marie, d'être très proche d'elle par la prière, le fait que le malin nous attaque davantage alors que ça devrait être le contraire? Bon. En fait, c'est un peu dans le texte de l'Apocalypse où voilà, le malin s'attaque un peu à la descendance de Marie, mais en fait, ce sont les chrétiens aussi. Hein. Alors, parce que d'abord, le malin a peur de Marie parce que c'est la toute humble, toute humilité. Mais voilà, mais bien sûr, Marie nous aide dans le combat spirituel. Hein, elle nous aide. En fait, plus on s'approche de Dieu, plus le malin aussi veut nous empêcher de cette union au Christ. Hein, ce combat, il n'est pas réservé simplement à ceux qui s'approchent de Marie, mais à tous. Hein, le combat spirituel, il est voilà. Donc je me suis peut-être un peu enflammé, mais voilà. Mais Marie, voilà, nous aide aussi dans ce combat spirituel, nous protège aussi. Hein, c'est pas, hein, j'ai pas été peut-être assez clairement.
Saint Louis Marie Grignon de Montfort revient sur ce point très précisément. Il dit, mais c'est une des objections à se consacrer à Marie. Il dit, mais en fait, on constate que ceux qui sont consacrés à Marie, eh bien, connaissent des croix plus grandes. Et il répond à la chose suivante, c'est vrai. C'est vrai, quand on se consacre à Marie, eh bien, Marie nous obtient du ciel les grâces les plus grandes. Et en fait, la plus grande des grâces, c'est d'être unie à la croix du Seigneur. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais, ajoute-t-il, en fait, ces croix sont plus faciles à porter, parce qu'on les porte avec Marie. Et il appelle Marie la confiture des croix. Il dit qu'il y a les noix, c'est comme les noix qui sont des noix vertes qui agacent les dents. Alors comment fait-on pour les manger ? Eh bien, on les confie, c'est-à-dire qu'on les met dans le sucre, et le sucre va rendre les noix qui sont agaçantes délicieuses. Eh bien, Marie, c'est la confiture des croix. C'est-à-dire que les croix sont plus lourdes et en même temps, elles sont plus faciles à porter parce qu'avec Marie, eh bien, on le porte plus simplement et plus paisiblement. Vous voyez, Marie, elle nous aide à porter la croix. Voilà. Et moi, je trouvais ça très parent. Donc, je vous livre cette petite image populaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.
On a entendu dans l'évangile aujourd'hui que Jésus demande, enfin dit n'ayez crainte. Et il y a une question qui porte sur la différence entre cette crainte et la crainte de Dieu, fruit de l'Esprit Saint. Alors, c'est un problème souvent de traduction, parce qu'en français, la crainte, elle peut vouloir dire aussi la peur. Et donc, Jésus dit « n'ayez pas peur », cette phrase aussi qui a été reprise pour l'ouverture de son pontificat par Jean-Paul II, « n'ayez pas peur », et Jésus nous dit que ce qu'il sollicite dans notre cœur, notre confiance. Et il nous dit « n'ayez pas peur, je suis là, je suis avec vous, je vous accompagne ». Et donc, quand Jésus dit « n'ayez crainte », il dit « n'ayez pas peur ». La crainte, qui est le fruit de l'Esprit-Saint, c'est, on pourrait dire, quelque chose qui est de l'ordre du respect, de la révérence. C'est quelque chose auquel on assiste, en fait, aussi dans l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, vous voyez, tout va très bien jusqu'à un moment. C'est même quand Jésus est transfiguré et que Élie et Moïse sont là, Pierre est encore assez à l'aise. C'est bien qu'on soit ici, on va faire trois temps, tout ça. Et quand la nuée lumineuse apparaît, il n'y a plus personne. Il se prosterne. Et ils sont comme écrasés. Alors c'est un terme qui est ambivalent, alors je le mets entre guillemets, mais vous voyez, il y a dans la crainte de Dieu quelque chose qui reconnaît que Dieu est Dieu et que je ne suis pas Dieu. Il y a un ancien chapelain d'ici Francis Manoukian, qui disait ça, le père Francis Manoukian. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, l'un de nous n'est pas Dieu, il va falloir que tu apprennes lequel. Et vous voyez, dans notre vie, on a toujours un peu. Une des grandes dénonciations de l'Écriture, c'est l'idolâtrie. C'est de mettre la main de Dieu, d'enfermer Dieu dans des images. Et la crainte de Dieu, c'est se dessaisir de ces images, de se dessaisir de cette main que nous mettons sur Dieu. Quel que soit. Ça peut être la main de notre intelligence, vous voyez, la main de. Donc la crainte de Dieu, qui est ce respect, cette révérence.
Une distinction tout à fait traditionnelle et très simple à comprendre, la crainte qui engendre la peur, en particulier la peur du châtiment, on l'appelle la crainte servile. Tandis que la vraie crainte biblique, c'est la crainte d'adoration, tout simplement. Alors encore plus facile à comprendre, il y a une crainte, c'est de blesser celui qui est si beau et si saint et qui nous aime tellement. De même qu'on a peur de blesser un petit enfant, de le chagriner, etc. C'est cette crainte-là, mais c'est une crainte tout à fait positive.
Une autre question. Est-ce que dans la communauté de l'Emmanuel créée et fondée par Pierre Goursat, on développe aussi la dévotion au rosaire vivant tellement conseillée par toutes les apparitions mariales pour la conversion et un bouclier de protection ? La réponse est non. On ne développe pas la dévotion au rosaire vivant, qui est une modalité particulière de vivre la dévotion à Marie. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose contre, c'est-à-dire que dans la communauté de l'Emmanuel, il n'y a pas un appel à vivre la dévotion à Marie selon cette modalité-là. Il y a beaucoup de modalités pour vivre la dévotion à Marie. Le père Guénaël en a parlé, et donc cette diversité, elles sont belles. Elle est belle. Et cette tradition avec un petit t, vous voyez, de ces dévotions avec des petits d, voilà, eh bien, elles sont belles et elles sont bonnes. Elles jaillissent de la vie de l'Église, liées ou non à une origine surnaturelle ou à une apparition. Voilà. Donc, je vous rappelle quand même que le discernement de l'Église est quand même nécessaire par rapport aux apparitions, donc, et phénomène extraordinaire. Par contre, ce qui n'est pas facultatif, c'est la dévotion à l'Eucharistie. La dévotion à la Vierge Marie, la dévotion au Sacré-Cœur, qui sont des dévotions universelles, avec un grand D, j'allais dire. Vous voyez, ça constitue l'essence de la vie chrétienne. Voilà. Et là, pour le coup, va-t-on manifester notre dévotion à Marie? Par la consécration selon Saint Louis Grignon de Montfort, par la vénération des icônes avec les orthodoxes, par le rosaire vivant avec Sainte Pauline Jaricot. Vous voyez, là, pour le coup, eh bien, liberté de l'Esprit Saint. N'enfermons pas l'Esprit Saint dans nos cadres et ne demandons pas aux autres de valider nos pratiques en voulant leur imposer. Là, il y a quelque chose, vous voyez, qui n'est pas de l'Esprit Saint et qui n'est pas dans la liberté. Prenons le temps de voir mais ce à quoi le Seigneur m'appelle parmi les grandes richesses de la tradition de l'Église.
Alors, de notre côté, il nous reste une question. Une maxime préférée de Saint François de Sales fut « ne rien demander, ne rien refuser ». Pourtant, dans les évangiles, il est dit « demande et tu recevras ». Alors, je fais quoi ? Alors, il faut savoir que c'était un des exercices préférés de Saint Thomas d'Aquin que de prendre comme ça dans l'écriture des propositions qui semblaient contraires. Parce que on trouve dans la Bible des expressions qui sont contraires. On trouverait certainement un fondement scripturaire à ce que propose Saint François de Sales. Ne rien demander. D'ailleurs, Jésus dit, c'est pas la peine de demander, votre Père, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Bon. Et, donc c'était un de ses exercices préférés pour sortir par le haut, pour voir comment en fait la parole de Dieu est toujours plus riche finalement que ce qui nous apparaît d'abord dans un premier temps comme une contradiction. Et cela étant dit, ça ne dit pas comment on répond à cette question-là. Je dirais que vous voyez que de la part de ce dont nous parle Saint François de Sales, c'est de la confiance. Dans cette ligne qui est celle de Jésus qui dit votre Père des cieux, regardez les oiseaux, il les nourrit, regardez les lys des champs, ils poussent. Votre Père, il vous connaît, il sait, c'est lui qui vous a créé. Vous êtes ses enfants, bien-aimés, il sait ce dont vous avez besoin et il vous le donne. Et donc, il y a pour Saint François de Sales quelque chose qui est aussi de l'ordre de la confiance, je l'ai dit, de l'abandon, de la remise de soi-même, de l'oubli de soi-même aussi. On pourrait dire, si on allait un peu plus loin, du renoncement à soi-même qui fait que, Seigneur, tout est bien. Ce qui viendra, je l'accepterai, je ne le refuserai pas. Et je ne vais pas te demander plutôt vert, plutôt rouge, mais j'accepte de toi tout ce qui vient de ta main parce que tu es mon Père et je te fais confiance. Bon, c'est comme ça que je le traduirai. Et vous voyez, pour autant, eh bien, Jésus nous dit « demande et tu recevras ». Parce que, aussi, à la fois un enfant fait confiance à son père, mais une expression aussi de la confiance, c'est de pouvoir demander. Quelqu'un à qui je ne fais pas confiance, je lui demande rien. Et que la prière de demande est une prière, d'ailleurs la prière du Notre Père est fondamentalement une prière de demande. Et cette prière, elle dit que nous croyons en l'amour du Père pour nous. Et comme je crois que tu m'aimes, et comme je suis devant toi comme un petit enfant qui a tant besoin de toi, Seigneur aussi, je te demande. Bon. Et en fait, les deux ne s'opposent pas. Les deux disent quelque chose de différent de notre attitude devant le Seigneur. Et elles peuvent décrire des étapes différentes de notre vie spirituelle. Mais en disant ça, je serais très prudent de ne pas vouloir voir des étapes successives ou une qui est mieux que l'autre. Simplement, ça parle aussi de différentes parties de notre cœur. Ça parle de différentes modalités par lesquelles on s'adresse à Dieu. Et une fois de plus, pour ma part, je ne crois pas que les choses s'opposent, mais que notre vie est suffisamment riche, notre cœur est suffisamment complexe, notre relation avec Dieu est suffisamment vivante pour qu'il y ait à la fois la place pour dire Seigneur, tout est bien, et en même temps Seigneur. Tu es mon père et tu t'occupes de moi et je voudrais te demander ça. Voilà.
Il est important aussi d'isoler un verset de la Bible ou bien d'isoler, de remettre dans le contexte. Vous voyez, Saint François de Sales, en fait, quand il dit ça, il y a des phrases avant, il y a des phrases après. Donc ça permet de situer ce qui est dit. Et puis faisons attention aux slogans. Vous voyez, on n'avance pas avec des slogans souvent qu'on assène sur la tête des autres. Voilà. 1000 paroles de François de Sales ne feront jamais un verset de l'Évangile. Donc ne mettons pas sur un même niveau aussi des paroles. Enfin, vous voyez, c'est différent quand même. Ce que dit un saint ou bien ce que dit l'Écriture sainte, ça n'a pas le même statut. C'est pas la même chose. C'est pas la même inspiration. Quand on parle d'inspiration, on parle pas exactement de la même chose. Quand on dit que Saint François de Sales était vraiment animé par l'Esprit Saint, et quand on parle de l'auteur de la Bible qui est inspiré par l'Esprit Saint, on dit pas exactement la même chose. Donc, il s'agit d'éviter la confusion. Et puis, petite tentation, c'est de trouver un verset biblique qui justifie ce qu'on pense. C'est-à-dire, on veut utiliser, on instrumentalise la parole de Dieu pour avoir raison. Par exemple, dans un couple que j'accompagnais où elle était quand même très 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 possessive. Et le type, il disait rien, il avait 21 ans, et je lui dis, en fait, ça va pas le faire, votre couple, parce que dans 15 ans, vous allez dans le mur, parce que le mec, il en aura marre. Bon, et donc, il y a un problème, et donc, vous prenez conscience que là, il y a un problème. Elle est revenue, et je dis, bah, vous voyez, on n'est pas à l'autre, l'autre ne m'appartient pas, voilà, l'autre demeure autre, voilà. Et puis, elle est revenue la semaine suivante en me disant, bah, il est marqué dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui, bon, voilà. Donc, mélangeant l'appartenance mutuelle et la possession d'ailleurs, parce que le Cantique des Cantiques n'est pas une mainmise sur l'autre qui m'appartient, auquel j'ai le droit. Voilà. Bon, oui, mais on peut toujours trouver dans la Bible quelque chose qui justifie, pour que.
Et puis dans le contexte donc de saint François de Sales, dans cette phrase, c'est un peu l'obéissance. C'était pas de ne rien demander, de rien refuser à Dieu. En fait, c'était par rapport à quand on lui demande quelque chose, un service ou une prédication. Bon, voilà, ben, il les cherchait pas, mais si on lui proposait, l'acceptait. Enfin voilà. Donc c'est une autre chose. Ça concernait pas la relation au Seigneur, cette phrase là. Hein. Tandis que demander, tu recevras, c'est plutôt une relation, c'est en contexte de la prière. Donc c'est là aussi, il faut voir le contexte de ces phrases.
Toujours par rapport à cette question, c'est intéressant de voir que dans les évangiles, le paradoxe ou l'apparente contradiction qu'on vient de soulever, elle est dans les paroles même de Jésus. Dans un endroit, il dit qu'il faut prier vraiment avec persévérance sans se décourager. C'est dans la parabole de la veuve importune et du juge inique. Il va même jusqu'à dire, à faire comprendre que si on n'a pas cette persévérance, justement, il dit, mais alors le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et là, ce n'est pas la foi en son existence, c'est la foi dans notre relation à lui. Est-ce que c'est exactement ce que disait Louis-Pierre tout à l'heure, c'est la confiance ici. Est-ce qu'il trouvera encore la confiance en moi parce qu'ils se sont arrêtés à prier? Mais par ailleurs, dans un autre endroit, il dira, eh bien, ne rabâchez pas comme les païens. N'arrêtez pas constamment de demander. Votre Père sait déjà de ce que vous avez besoin. Cherchez-vous le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc il y a cet équilibre, ou plutôt cette compénétration des deux à trouver.
J'espère que la réponse, ou les réponses, puisque elle a été à multiples facettes, satisfera la personne qui a posé cette question. Nous avons encore, il y a un petit papier que je vois là-bas aussi. Je crois qu'on va réussir à répondre à toutes les questions.
Il y a un papier que j'ai donné volontairement à Étienne, et c'est au moment où il partait justement.
Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le charisme de guérison? Alors, je suis pas sûr de bien, d'être au même niveau que la personne qui pose cette question. Parce que hier, le père Étienne a fait une distinction avec laquelle je serais heureux de discuter avec lui. Et il a dit, il y a le charisme de connaissance, qui est la personne qui va... qui reçoit de manière qui comprend que le Seigneur lui dit que le Seigneur agit dans l'assemblée pour une autre personne. Donc ça, c'est le charisme de connaissance, hein. Voilà, le Seigneur visite telle personne et il s'est passé ça et le Seigneur fait ça et la personne se reconnaîtra parce que ceci et le Seigneur éventuellement lui demande cela. Et bon, vous voyez bien. Alors il a distingué avec le charisme de guérison en disant le charisme de guérison, c'est la personne elle-même qui a été désignée et que le Seigneur veut guérir, qui vit ce charisme. Auquel cas, si je devais expliciter cette formulation, et si c'est ça que pose la question, alors je dirais les choses comme ça. C'est que il y a aussi dans quand on s'est reconnu comme étant destinataire d'une parole comme ça de connaissance, en fait, un chemin s'engage aussi pour soi, parce qu'il s'agit de dire bah, ça a été pour moi, mais il y a la foi qui est sollicitée, et puis il y a la manière dont dans le temps cette foi va durer, et puis elle va accompagner l'œuvre de Dieu, parce que ça se fait pas toujours tout de suite, parce qu'il faut aussi continuer, comme on le dit à chaque fois, d'aller voir son médecin, de continuer à. Et puis, il y a parfois des doutes. Je me souviens de ce, Je crois que c'est Merlin Carothers dans La puissance de la louange, qui est vraiment un magnifique livre. Si vous l'avez pas lu, faut le lire. La puissance de la louange, il raconte l'histoire de cette personne qui sait que Dieu l'a guéri. Il a compris. Je sais pas si c'est une parole ou si c'est une voix intérieure, je sais pas quoi. Et je crois que c'est un problème à la jambe. Et tout d'un coup, je sais plus s'il est en train de courir ou de marcher ou je sais pas quoi, mais il ressent à nouveau une douleur à la jambe. Et en fait, il sent que c'est, il le vit, il le sent, il voit que c'est une tentation et qu'il faut que sa foi s'affermisse et qu'il se dise, qu'à ce moment-là, il y a comme deux chemins devant lui. Soit dire, non, j'ai été guéri, j'y crois, en fait, c'est autre chose. Soit de dire, en fait, soit le doute, quoi. Cette personne le vit comme ça. Et c'est raconté dans le livre. Et donc, il prend conscience que non, il doit renouveler son acte de foi. Et c'est ce qu'il fait. Et de fait, la guérison se confirme et cet homme est guéri pour toujours, quoi, disons. Voilà. C'est comme ça que moi j'expliciterais, s'il fallait dire. Mais il me semble qu'on peut parler autrement du charisme de guérison. Par exemple, le père Emiliano Tardif, qui est venu plusieurs fois ici à Paray-le-Monial, je crois qu'on peut dire qu'il avait un charisme de guérison. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait guérir les gens, mais je vais pas dire ça comme ça, parce que le père Jean-Dos n'est pas d'accord avec moi. Mais parce que moi, je dirais peut-être un peu comme Jésus, qui guérissait parce que l'Esprit Saint, parce que le Père lui donnait de pouvoir guérir. Mais Jean-Dos n'est pas d'accord avec moi, et on va pas rentrer dans ce débat. Donc, je retire ce que je dis. Mais le père Emiliano Tardif, il ne guérissait pas par lui-même. Il disait pas, tiens, toi, je vais te guérir. Mais le Seigneur passait à travers lui. Et de fait, il a guéri des centaines, des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers. Enfin, le Seigneur a guéri à travers lui. Mais lui s'est rendu disponible. Lui a accepté cette mission qui a quand même sensiblement bousculé sa vie. Et donc, il avait ce charisme de guérison dans le sens où le Seigneur l'avait choisi pour être un ministre de l'expression de sa bonté à travers la guérison de personnes vers lesquelles le Seigneur l'envoyait, pour laquelle lui, Emiliano, se rendait disponible et le Seigneur agissait à travers lui de manière mystérieuse et comme lui-même ne pouvait pas le maîtriser. Il ne pouvait pas choisir de guérir telle personne ou telle personne. Voilà pour le charisme de guérison. Et je vois que le père Jean Rodolphe...
Je souscris à tout ce qui a été dit aussi sur le père Tardif. Simplement pour dire que le charisme de guérison est indissolublement lié à un charisme de foi. Voilà. Il exerçait vraiment un charisme de foi, l'exercice de la foi, la mise en pratique de la foi. Voilà. Voilà.
On a déjà fait... Tu veux répondre à ça ou pas ? Oui. Alors, je réponds à cette question. Pouvez-vous m'éclairer sur le prophète qui doit revenir ? Alors, en fait, il y a deux prophètes qui doivent revenir. Il y a, au moment de la mort de Moïse, on nous dit que c'est le plus grand des prophètes. Mais il y a une annonce jusqu'au prochain grand prophète qui va venir. Et quand on demande à Jésus, quand on demande à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le prophète? On fait référence à cette annonce dans l'Ancien Testament qui annonce qu'il va venir un prophète qui sera plus grand que Moïse ou aussi grand que Moïse. En tout cas, il n'y en aura pas de plus grand que Moïse entre les deux. Mais il y a aussi une tradition. Elle ne me semble pas, mais ça, le père Jean-Rodolf pourra peut-être me corriger. Mais elle ne me semble pas fondée dans l'écriture. C'est plutôt une... Si, alors c'est une... Bon, alors c'est une... Alors il y a une tradition fondée dans l'écriture, et le père Jean-Dolph en dira plus après, qui annonce que Élie va revenir. De fait, vous savez, Élie a été transféré au ciel. Il n'est pas mort, il est monté directement au ciel, mais comme Enoch. Alors Moïse a été enterré, mais on ne sait pas où est son tombeau, on ne l'a jamais retrouvé. Et donc... flotte aussi autour de Moïse cette réputation d'être monté au ciel avec son corps déjà. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus plusieurs fois fait référence à ça, au prophète qui doit revenir pour annoncer la venue du Messie. Et ce prophète, ça doit être Élie. Élie doit revenir, et de fait, puisqu'il est monté comme ça avec son corps, peut-être il peut revenir. Et Jésus dit, c'est Jean-Baptiste. Il est déjà venu. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et à ce moment-là, les apôtres comprennent que c'est de Jean-Baptiste qu'il parle. Et donc, le prophète qui doit revenir, c'est, 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 une annonce que avant que vienne le Messie, celui qui est attendu par Israël, eh bien, un grand prophète va se lever aussi et qu'il va être son précurseur. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste vient, eh bien, il sait qu'il va. C'est pour ça que la figure de Jean-Baptiste et de Jésus sont aussi liées, quoi. Voilà, sont autant liées que ça.
Alors, c'est une tradition juive qui est fondée sur la parole du prophète Malachie. Tout à fait à la fin du livre de Malachie, qui est il y a que 3 chapitres, et qui annonce justement la venue du grand jour de Dieu, donc une dimension qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire le grand jour de Dieu, les fins dernières, eh bien il dit, voici, c'est Dieu qui parle, voici que je vous envoie Élie, le prophète, pour réconcilier ou pour ramener le cœur des fils vers leur père et le cœur des pères vers leur fils. Et puis ensuite, donc, on annonce la venue de ce grand messager qui annonce donc le grand jour de Dieu. Alors, c'est là-dessus que se fonde toute la tradition juive qui fait que les apôtres, en descendant de la montagne, disent à Jésus, mais qu'en est-il que, où il est dit que Élie doit revenir? Voilà. Voici que je vous envoie Élie le prophète. Or, effectivement, quand l'ange apparaît à Zacharie dans le sanctuaire au moment de l'oblation du soir, il dit le fils que voilà, tu l'appelleras Jean, il viendra avec la puissance d'Élie, et il cite Malachie pour ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Et c'est en cela que Jean-Baptiste exerce le ministère d'Élie et qu'il accomplisse cette sorte d'attente et de tradition juive. D'ailleurs, c'est très important, il y a comme une sorte de contradiction. Au moment où les pharisiens ou les docteurs de la loi viennent trouver Jean-Baptiste au bord du Jourdain, ils lui posent plein de questions. Es-tu le Messie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Là, il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas passer pour... Jean-Baptiste n'est pas une réincarnation d'Élie, évidemment que non. Par contre, Jésus dit, eh bien oui, Élie doit revenir, pardon, et tout mettre en ordre. Or, il doit préparer la venue du Messie. Il confirme l'Écriture. Et c'est là qu'il précise, or, je vous le dis, Élie est déjà venu. Et il lui en fait tout ce qu'il voulait.
Il reste une dernière question et puis 2 petites anecdotes que amusantes, mais je vous les dirai après. Donc la dernière question, c'est de définir le sabbat et comment agir ou nous comporter la journée du sabbat. Alors comment définir le sabbat? La Bible définit le sabbat. Le sabbat, il est déjà d'une certaine manière défini dans le premier récit de la création, donc au premier chapitre de la Genèse, ou à la jonction du premier et du deuxième, où Dieu se repose. Et dans le sabbat, qui va être mieux défini, ou de manière plus précise, plus déterminée, dans la loi que le Seigneur donne sur la montagne, et dont on trouve le texte dans l'Exode, au chapitre 20, ou dans le Deutéronome au chapitre 6. Et donc là, il y a une définition de ce qu'est le sabbat. Mais il y a un double sens dans la tradition, derrière le sabbat. Il y a ce premier sens qui est Dieu s'est reposé de sa création, donc un repos où j'accepte d'éteindre mes puissances co-créatrices, mes puissances de collaboration à la création. Et donc, il est entre guillemets, interdit d'agir, parce que je reconnais que celui qui agit, c'est Dieu. Et que donc, je ne vais pas... c'est lui qui est le premier acteur de la création, c'est lui qui est le premier acteur de ma vie, c'est d'abord lui qui fait, comme dirait Jésus, le Père travaille, et moi aussi je travaille toujours, et c'est d'abord Jésus et le Père qui travaillent, et nous, enfin... Et donc, la première signification du sabbat, c'est d'éteindre sa... Son pouvoir pour en reconnaissant que toute puissance appartient à Dieu. Et la deuxième signification du sabbat, ou le deuxième sens que porte le sabbat, c'est celui de la libération. Le sabbat fait mémoire de la libération du peuple hébreu tiré de la mort qui était la sienne en Égypte, et puis aussi de la mort que signifie la mer dans la mer Rouge. Et donc le passage de la mer Rouge est signifié, est remémoré, signifié dans chaque sabbat. Et donc à la fois, vous voyez, Dieu est le Tout-Puissant qui agit et Dieu est le Tout-Puissant qui sauve. Je ne peux pas faire mon salut par moi-même, Dieu seul me sauve. Et le fait d'accepter, en fait, la spécificité du jour du sabbat, on peut dire, en tout cas, Paul Beauchamp médite comme ça là-dessus, c'est que c'est le jour où je ne peux pas faire le bien. C'est-à-dire que c'est toujours impossible de faire le mal. Enfin, Dieu ne nous dit pas choisis entre le bien et le mal. Le mal, c'est ce qui n'est pas permis. Et tous les jours de la semaine. Ce qu'ajoute le jour du sabbat, c'est que le bien n'est pas permis non plus. Parce que, en fait, celui qui est le maître du bien, c'est Dieu. Voilà. Alors, ça, c'est pour dire un peu, c'est comme ça que moi, je définirais le sabbat. Je suppose que le père Jean-Rodolphe dira aussi un petit quelque chose, et peut-être aussi le père Guénaël. Mais la deuxième question, comment nous comporter, nous, la journée du sabbat? Alors, vous voyez que dans notre tradition chrétienne, il y a eu un glissement. Aujourd'hui, les 10 commandements, pour nous, ou la lecture des 10 commandements, ils nous invitent à respecter le jour du Seigneur, qui est le dimanche. Donc, il y a eu un glissement. Et donc, nous devons non seulement aller à la messe le dimanche, par amour pour ma, parce que l'amour, il passe forcément par des gestes, et que, eh bien, c'est un geste que l'Église définit comme étant une des pierres de fondation de la manière dont nous exprimons notre amour au Seigneur, puis dans la manière dont nous sommes en relation avec lui. Une relation, il faut aussi qu'elle ait des déterminations concrètes, et l'Église nous dit, ben, c'est une des pierres fondamentales de cette relation. Bon. Mais s'il n'y a pas que ça le dimanche. À la Salette, la Vierge, elle se plaint qu'on travaille beaucoup trop le dimanche. Et le pape Jean-Paul II a écrit, je ne sais plus si c'est une encyclique, je crois que c'est plutôt une lettre apostolique, mais qui s'appelle Dies... C'est une encyclique ? Non, c'est une lettre apostolique, une exhortation apostolique. Qui s'appelle Dies Domini, qui parle du dimanche, qui est très belle, que vous pouvez lire, et qui donne le sens du dimanche, et puis qui donne aussi beaucoup d'indications sur comment le vivre. Comment vivre ce jour comme un jour consacré au Seigneur. Parce que pour que... On voit que c'est... Dans la Bible, ce sont des choses qui sont très importantes, que la consécration de l'espace et la consécration du temps. La consécration de l'espace par la présence du temple, par cette terre qui est consacrée, bon, et la consécration du temps par la prière. Et nous sommes des hommes aussi incarnés que le peuple hébreu. Nous vivons dans le temps et nous vivons dans l'espace, et ça marque notre vie de manière suressentielle, quoi. Et donc, marquer notre temps, enfin, consacrer notre temps et consacrer notre espace, c'est important. L'intronisation dont parlait le père Étienne lors de la présentation du message, bah, c'est quelque chose qui dit ça. Consacrer notre espace, consacrer notre temps, bah, c'est la prière, mais c'est aussi ce jour qui est consacré au Seigneur. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je vous renvoie à cette lettre. Et puis peut-être un jour, ça vaudrait le coup qu'on fasse des rencontres autour du dimanche parce que de fait, il y a beaucoup de choses à réentendre, à redécouvrir et à vivre pour notre équilibre, pour être... des hommes qui reçoivent et des femmes qui reçoivent pleinement ce que Dieu veut leur donner. Cependant, il y a peut-être et il y aurait peut-être, et là, je balbutie en disant ça, mais une manière de redécouvrir quelque chose du sabbat, qui n'est pas le dimanche, mais qui dit qu'il y a une autre, en fait, qu'il y a une autre coloration. Le dimanche ne remplace pas le sabbat. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection et qui ouvre quelque chose de nouveau. Mais vous voyez ici, quand on vient dans ces rencontres, on commence le jeudi soir, et puis on vit un peu au rythme du Christ qui vit sa passion le vendredi, et puis le samedi, eh bien, il est au tombeau, puis le dimanche, on célèbre sa résurrection. C'est quelque chose, ce rythme, qui est très traditionnel dans l'Église. De faire mémoire de la passion le vendredi, c'est quelque chose auquel nous sommes, en fait, fortement invités. Peut-être on l'a oublié, peut-être c'est peu présent dans notre vie. Mais en fait, c'est quelque chose de très traditionnel, parce que nous vivons, au fond, dans ce rythme qui est celui de la mort et de la résurrection du Christ, parce que c'est la grâce de notre baptême d'avoir été plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ, et que fondamentalement, c'est ça notre vie. La source de la vie spirituelle, de la grâce en nous, c'est ça, mourir avec le Christ et vivre avec lui. Et il y aurait certainement quelque chose à redécouvrir. Alors, il y a certains chrétiens essayent de le vivre, certaines communautés aussi essayent de redécouvrir un peu ou de proposer des manières de vivre donc le samedi comme comme un jour qui a une couleur spéciale qui nous aide à incarner notre foi et notre marche avec le Christ. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que pour ma part, bah, c'est encore quelque chose qui est peu présent, mais pour honorer cette question, je crois qu'en effet, il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'être plus creusé ou un charisme qui commence un peu à naître dans l'Église et qui peut-être se développera pour un plus grand nombre.
Cinq minutes au moins, oui. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, oui, j'insiste beaucoup sur les deux sens. D'ailleurs, le premier sens dans l'ordre chronologique historique, c'est d'abord la libération d'Égypte. Et la célébration du Shabbat, c'est le passage de l'esclavage, symbolisé par les six jours de travail, à la liberté, l'entrée en terre promise. Et, ou la fin de l'esclavage, et qui correspond, lui, au septième jour. C'est plus tard qu'on lui a donné le sens de Dieu qui se repose après la création. Même si c'est ça qui vient en premier, effectivement, dans la Bible, dès le deuxième chapitre de la Genèse, du point de vue de l'histoire, de l'élaboration, c'est le premier sens, c'est d'abord la libération, et ensuite, voilà. On nous a fait parfois remarquer dans des réunion judéo-chrétienne qu'il semble manquer quelque chose dans la liturgie de l'Église, un jour où on rend grâce pour la création. La résurrection du Christ, c'est extrêmement important parce que pour nous, c'est la nouvelle création. Il a recréé le monde d'une façon encore plus admirable que la première création. C'est ce que nous chantons pendant la vigile pascale. Néanmoins, le grand mérite de la liturgie juive, d'abord à travers le Shabbat, chaque Shabbat, c'est de s'émerveiller de la création, de rendre grâce au Dieu créateur. Et il y a même une fête, le début de chaque nouvelle année juive, la Rosh Hashanah, qui est une fête d'automne, et bien très longuement, on rend grâce pour la création. Donc il y a, c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose à trouver, pas forcément quelque chose d'institué, mais pour ceux qui voudraient vivre quelque chose du Shabbat. Pour les chrétiens, un symbolisme très fort, c'est que le samedi saint, vécu par la Vierge Marie, c'était un Shabbat, que j'appelle le Shabbat de la Mère de Dieu, ou la Reine du Shabbat. Et là, c'est très fort le symbolisme, parce que dès le vendredi soir, c'est la mère de famille qui allume les bougies pour le Shabbat. C'est la mère de famille qui allume les bougies. Quel est le symbolisme? Alors ne le prenez pas mal, c'est que la tradition juive dise, ce qui est un fait, c'est par la femme que la lumière a quitté ce monde, par la désobéissance d'Ève. Donc il lui appartient à elle de faire revenir la lumière. Donc le Shabbat est aussi une annonce de la vie éternelle, du Shabbat éternel. Et si on l'applique à Marie, alors c'est complètement idéal. C'est elle, la nouvelle Ève, la nouvelle mère de famille, qui allume par sa foi et par son espérance et par sa persévérance, qui allume, et c'est pour ça qu'on chante dans une des antiennes ou plusieurs antiennes décomplies, « Par toi, en s'adressant à Marie, par toi la lumière est venue dans le monde ». On pourrait dire la lumière est revenue d'une façon encore beaucoup plus splendide dans le monde. Donc voilà ce que ça signifie aussi pour nous. Voilà, je crois que les cloches qui sonnent, ça, c'est le signe qu'il faut s'arrêter.
Merci, Jean-Rodolphe. Alors, je vous lis les deux petites anecdotes. La première, petite blague autour de l'utilisation de la parole de Dieu. La maman, il est l'heure de te lever, Kevin, pour aller à l'école. Kevin. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Et puis aussi quelqu'un qui remonte cette citation de qui de, dans le ciel, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est pas Corneille, ça? Bon, je sais. On voit que. Voilà, et donc un petit commentaire, on voit que les auteurs de l'époque lisaient la Bible. De fait, une grande partie de notre culture est plus accessible quand on connaît la Bible, ça c'est certain. Et bien voilà, ainsi s'achèvent nos rencontres, et merci d'avoir été présents, d'y avoir participé. Merci pour votre prière, parce que c'est aussi votre prière qui vraiment porte ces rencontres et qui permet que chacun puisse y entrer, que chacun puisse y sentir bien, que chacun puisse trouver aussi ce que le Seigneur veut lui montrer.